Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Rennes et vous écoutez le Labomatique, l'émission Science et Recherche. D'habitude, nous recevons des scientifiques qui viennent nous parler de leurs recherches, mais aujourd'hui, c'est le savant lui-même qui nous intéresse. Enfin, pas n'importe quel savant, les savants fous. Frankenstein, Dr. Jekyll, Capitaine Nemo, si tous ces noms nous sont familiers, c'est que la figure du savant fou fascine et fait partie intégrante de l'imaginaire collectif. Et c'est dans la littérature qu'est née la figure du savant fou. Et pour en parler, nous recevons Hélène Machinal, chercheuse en littérature anglophone à l'Université de Brest et auteure de l'ouvrage « Le savant fou » aux presses universitaires de Rennes. Et Hélène Després, postdoctorante, qui a également travaillé sur le sujet. D'ailleurs, la première question est peut-être la plus complexe, mais qu'est-ce qu'un savant fou ?
C'est pas une question à laquelle il est facile de répondre. En deux secondes, en fait, pour comprendre un petit peu ce qu'est la figure du savant fou à l'heure actuelle en littérature, on a deux dates, si vous voulez, dans l'histoire, ou deux périodes dans l'histoire qu'on peut considérer. Il y a d'abord les origines dans la mythologie, donc on peut en parler un petit peu. Puis il y a surtout la période charnière de la fin du 18e, début du 19e, donc la Révolution des Lumières, où là on voit apparaître un personnage qui est la matrice du savant fou qu'on connaît de nos jours.
Et justement, dans l'histoire, qui est le premier savant fou ?
En fait, il y a des origines dans la littérature britannique, notamment au 18e siècle, mais ce qu'on considère généralement comme le premier savant fou, au moins laïque, c'est Frankenstein, justement, parce qu'il crée sans le recours aux dieux, aux forces divines. Donc c'est le premier à vraiment faire de la science qui pose problème au vrai sens moderne de ce qu'on peut entendre comme science. Et puis, il est clairement inspiré des alchimistes. Donc, on voit vraiment qu'il est à la transition entre l'alchimie et la chimie, parce qu'il est justement à un moment très important, charnière dans l'histoire des sciences, qui est justement au 19e siècle, où toutes les sciences se réforment et puis se spécialisent et puis deviennent, se concentrent en discipline. Donc, Frankenstein est un des premiers vraiment importants. Et puis après, il a influencé beaucoup d'autres auteurs, entre autres victoriens, donc Jekyll, et puis Moreau, donc chez Stevenson, et H.G. Wells, donc chez H.G. Wells, il y en a plusieurs aussi, dans plusieurs de ses romans.
En revanche, pour la perspective plus ancienne que j'introduisais tout à l'heure, on peut aussi, et ça c'est aussi ça qui est intéressant, faire remonter la figure du savant fou à l'Antiquité, et en particulier des figures mythiques de la transgression, qui représentent la transgression, et en particulier la transgression ou la violation des frontières entre ce qui est de l'ordre de l'humain et ce qui est de l'ordre du divin. Donc là, c'est la figure de Prométhée qui généralement est mentionnée, puisque Prométhée crée les hommes et vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes, donc donne des pouvoirs aux hommes qui normalement sont censés n'appartenir qu'aux dieux. Et puis ensuite, donc à la période de la Renaissance, parce qu'évidemment la période de la Renaissance, comme souvent, est charnière également, on voit apparaître la légende de Faust, qui s'inscrit aussi dans cette même réflexion sur la transgression des prérogatives divines. Donc après, à chaque fois, finalement, que la science, d'une certaine façon, devient porteuse d'une menace pour l'homme en particulier, donc dans un contexte où les prérogatives du divin sont remises en question, on voit ressurgir des personnages qu'on peut apparenter à cette figure du savant fou.
Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez brièvement rappeler le mythe de Frankenstein ? On va dire, dans l'imaginaire, Frankenstein, pour nous, c'est le monstre.
Ça, c'est amusant que vous mentionniez cela, parce qu'on retrouve ça aussi avec une autre figure mythique qui est celle de Sherlock Holmes, où généralement les gens connaissent Sherlock Holmes, mais n'ont absolument jamais entendu parler de l'auteur qui a créé le personnage. Donc Frankenstein, oui, c'est un cas intéressant, parce qu'effectivement tout le monde connaît le monstre, mais personne n'a même idée que Frankenstein, en fait, c'est le nom du savant en question qui crée cette créature artificielle. Donc dans le roman, l'histoire, c'est effectivement l'histoire de ce savant, le docteur Victor Frankenstein, qui, suite à ses études universitaires, en particulier en médecine, veut tenter de créer un être à partir de morceaux de cadavres qu'il remet ensemble et à qui il donne vie, enfin, il donne vie à cette créature composée de morceaux de corps humain, par une manipulation, on pourrait dire, qui fait intervenir l'électricité, puisque c'est la période à laquelle écrit Mary Shelley, c'est la période des premières découvertes en électricité, tous les travaux de Galvani, et c'est des choses qu'elle connaissait très bien. Et donc, on se posait beaucoup de questions sur les pouvoirs de l'électricité à cette époque-là. Donc, il crée cette créature qu'il renie immédiatement. Donc, créature, ça c'est un autre détail important, créature à laquelle il ne donne pas de nom. Et qu'il renie immédiatement. Donc en termes de filiation, c'est très important dans l'histoire et d'identité de la créature, parce que cette créature n'a pas de nom. Et donc se trouve livrée à elle-même et assez rapidement donc, se rend compte de sa différence, du fait qu'elle est monstrueuse et que les gens ne supportent pas sa vue même. Et donc il retourne voir son créateur Frankenstein en lui demandant de lui créer une compagne. Donc lui créer une femme qui soit à son image. Et le docteur Frankenstein refuse, hein, et donc la créature décide de se venger en tuant un certain nombre de membres de sa famille. Et donc au terme du roman, le personnage du docteur Frankenstein part pour essayer de retrouver la créature et l'éliminer. Et donc ça se termine dans une scène qui se passe dans des déserts glacés avec le docteur à la poursuite du monstre.
Le docteur Frankenstein n'a rien de fou, en fait, puisqu'il fait une découverte extraordinaire, la découverte de la vie. Et avant, vous avez parlé des alchimistes. Donc, peut-on faire une comparaison entre les alchimistes et Frankenstein ? Les alchimistes qu'on peut considérer comme de la pseudo-science, alors que Frankenstein semble, lui, utiliser de la science pure.
En fait, les alchimistes, à l'époque où ils étaient dominants, en fait, à l'époque de Frankenstein, ils étaient déjà un peu de la pseudo-science. Mais avant, en fait, c'était la chimie officielle, en fait. Les alchimistes étaient des scientifiques. Évidemment, pour les chimistes d'aujourd'hui, c'était de la pseudo-science, mais c'est vrai pour à peu près toute la science de cette époque-là, en fait. On évoluait, donc. Mais après, les alchimistes étaient des scientifiques. Et puis, oui, effectivement, par contre, il y avait des buts assez différents de la science moderne et de la chimie moderne en particulier, qui est devenue une chimie beaucoup plus athée, en fait, en particulier. C'est ce qui faisait peur, en fait. C'est que les alchimistes avaient un idéal, quand même. C'est-à-dire qu'ils poursuivaient un but qui était très différent de la science, qui est de simplement comprendre le monde. Les alchimistes voulaient le modifier, voulaient, au contraire, avaient un but précis comme Frankenstein, en fait. Le problème, c'est que Frankenstein se plie pas complètement au but de la science moderne. Il refuse les buts de la science moderne pour se limiter au but de l'alchimie, donc qui est de créer, en fait, le grand œuvre. La créature de Frankenstein, c'est son grand œuvre, en fait. Il refuse de simplement vouloir comprendre le monde comme ses professeurs lui suggèrent, en fait, pour justement, pour l'altérer complètement. Après, l'histoire, la question de la folie est intéressante chez les savants fous, parce que, évidemment, l'expression savant fou peut sembler problématique, et puis en général, c'est une expression figée qui ne fait pas vraiment référence à une vraie folie, en tout cas pas une folie psychiatrique. Ou quand c'est le cas, généralement, c'est après coup. Parce que Frankenstein, non, il n'est pas fou, en tout cas pas fou au départ. Par contre, on voit quand même sa psyché, son état mental se dégrader tout au long du roman, en même temps que son état physique, d'ailleurs. Et puis donc, en fait, c'est les conséquences de son action comme scientifique qui le rend fou jusqu'à un certain point, parce qu'il est hanté par les conséquences morales de ce qu'il a créé, parce que Frankenstein est un être qui finit par être assez moral, contrairement aux savants fous qui vont suivre, qui vont devenir des êtres beaucoup plus amoraux. Par exemple, Moreau, qui est de l'île du docteur Moreau, de H.G. Wells, est complètement amoral. Il ne va jamais se remettre en question la moralité de ce qu'il fait. Et puis dans ces cas-là, dans les cas plus récents, donc, la folie, elle devient une espèce de folie sociale, en fait. C'est une marginalité. C'est pas une folie au sens psychiatrique, c'est une folie au sens d'une déviance, d'une norme, qui est la norme qui serait la norme de la science, en fait, la norme de l'institution scientifique qui donne un certain nombre de règles de travail aux scientifiques, donc une certaine balise. Et puis le savant est fou parce qu'il sort de ces balises-là, en fait, parce qu'il refuse la moralité que devrait impliquer la science. Après, il y en a d'autres, des personnages qui sont plus littéralement fous. Par exemple, Jekyll, c'est évidemment, la folie joue un très grand rôle dans le roman de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, mais au 20e siècle, la folie joue encore moins de rôle, en fait, dans les personnages de savants fous, parce que après 1945, les savants fous vont de plus en moins en moins s'isoler. Donc, évidemment, l'isolement est un motif qui est lié à la folie de très près, parce que c'est un isolement psychique, un isolement symbolique. Mais après 45, les savants fous vont travailler au cœur des institutions. Ils vont travailler au cœur de la science assez institutionnelle, assez légitime. Ils vont s'isoler au centre, mais quand même, ils vont être beaucoup plus acceptés par les autres, parce que c'est la science elle-même qui dérape, c'est moins l'individu. Parce qu'on est à l'époque de la Big Science, à l'époque où on crée des bombes atomiques, où on a vu les médecins nazis faire des travaux majeurs, mais pas seulement des individus. Tout un système utilisait la science pour justifier une idéologie. Donc, c'est la science dans son ensemble qui commence à faire peur, moins les dérapages d'un individu qui pourrait devenir fou, par exemple.
Tout à l'heure, vous avez parlé comme caractéristique des savants fous, le côté isolement. Et donc, existe-t-il des caractéristiques, d'autres caractéristiques du savant fou, de la figure du savant fou ?
Alors ça, c'est intéressant comme question, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de caractéristiques du savant fou, au-delà de ce qu'a mentionné Hélène, c'est-à-dire l'isolement, l'île, qui sont d'ailleurs aussi souvent associés à une tradition qui est celle de l'utopie ou de la dystopie, ou de la création d'une micro-société. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que le cinéma a apporté à la représentation du savant fou. Et le cinéma a énormément contribué à construire justement et à mettre en place un certain nombre d'accessoires qui sont dorénavant systématiquement associés au savant fou. Donc le laboratoire, ça c'est donné inévitable. Laboratoire dans lequel généralement il faut un certain nombre d'éprouvettes et de volutes de fumée qui s'échappent. Voilà, une pile de Tesla. Enfin, donc ça c'est voilà. Ce que le cinéma a aussi apporté très souvent, c'est l'idée de l'assistant du savant fou. C'est-à-dire le savant fou travaille avec un assistant qui est généralement un subalterne, qui est généralement un souffre-douleur aussi, un repoussoir. Enfin voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été beaucoup développé.
En fait, au cinéma, surtout au cinéma, mais dans la littérature un peu aussi, il y a toujours un rapport au corps. Même en fait, quand il est question d'autres expériences comme la bombe atomique, tout ça, c'est toujours perçu comme une créature. Il y a toujours l'idée d'une création. Le savant fou est toujours associé à la création en fait. Parce que c'est ce qui est dangereux dans le scientifique. C'est quand il crée quelque chose, pas quand il découvre du savoir pur, en fait. C'est quand il influence vraiment le réel en créant une créature dont il peut perdre le contrôle et puis qui peut le détruire lui-même ou détruire le monde. Donc, que ça soit une bombe atomique ou une créature vivante, mais évidemment, c'est plus souvent quand même une créature vivante qui peut être hybride, qui peut être... Donc, c'est ce qui fait peur, en fait. C'est la monstruosité de la créature qui fait peur. Souvent, puis ça, c'est très courant au cinéma parce que le savant fou est bizarrement devenu alors qu'en littérature, c'est une figure qui apparaît beaucoup en science-fiction, au cinéma, c'est beaucoup plus courant en horreur qu'en science-fiction, en fait. C'est un personnage du film d'horreur parce que visuellement, il y a quelque chose de très repoussoir, il y a quelque chose de très inquiétant dans cette créature qui est créée par l'homme purement. Donc, tout ce rapport de... Donc, le double est un des éléments qui apparaît constamment aussi lié au savant fou. Le double entre créateur-créature, entre... Donc, c'est un motif qui est courant aussi par rapport au savant fou.
Pour revenir aux exemples donnés, donc Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ou encore l'île du Dr. Moreau, ils sont tous issus de la littérature britannique du 19e siècle. Est-ce une coïncidence? Et pourquoi on retrouve plus facilement la figure du savant fou dans la littérature britannique?
Alors, il faut distinguer quand même entre, d'une part, Frankenstein de Mary Shelley, qui date de 1818-1831, selon la date d'édition qu'on prend en référence. Donc, c'est quand même le tout début du 19e. Et les deux œuvres dont on a parlé après, c'est-à-dire Stevenson et Wells, qui datent vraiment de la fin du 19e, des dernières décennies. Hein. Donc, ce qui s'est passé entre les deux, qui est fondamental, c'est d'abord la révolution industrielle en Angleterre, et puis, bien sûr, toutes les découvertes liées à l'évolution à la fin du 19e. En fait, je pense qu'il faut recontextualiser Frankenstein et le lier à la révolution des Lumières et au bouleversement scientifique, au progrès scientifique lié à la révolution des Lumières, alors qu'il faut lier et mettre en rapport Dr. Jekyll et The Island of Dr. Moreau avec la période qui suit les découvertes et la publication des théories de Darwin sur l'évolution. Donc ces deux crises épistémologiques ou la façon dont l'homme se représente le monde, deux crises distinctes qui donc vont entraîner, si vous voulez, des représentations dans la fiction qui sont quand même sensiblement différentes. Alors l'Angleterre, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Hein. Ici encore, c'est difficile à résumer en un mot, mais je pense que très, très clairement, on peut dire que l'Angleterre est le premier pays à subir la première révolution industrielle, donc bien avant... au 18e, hein, bien avant la révolution industrielle du 19e, qui, elle, va se retrouver également en France. L'autre élément qu'il faut aussi considérer, je pense, c'est la nature de la société anglaise, hein, et en particulier la réalité d'une société victorienne qui était quand même une société extrêmement rigide, avec un système de classe extrêmement peu perméable. Hein, donc, une société dans laquelle, si vous voulez, certaines figures ou symboles de la transgression, comme l'est le savant fou, acquièrent peut-être une dimension ou ont un impact plus conséquent. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de savant fou en France, par exemple à la même époque au 19e.
Oui, donc en France, déjà, il y a Jules Verne qui met en scène certains savants fous. Il va avoir Maurice Renard qui est peut-être plus à la transition entre le 19e et le 20e siècle, mais qui lui-même va s'inspirer beaucoup des savants fous britanniques, donc de H.G. Wells, entre autres. Mais après, il y a plusieurs exemples dans les littératures françaises, mais aussi américaines, chez Hawthorne, entre autres, chez Poe. Donc, il va avoir des figures qui vont être là aussi. Mais ça arrive assez souvent, en fait, qu'ils vont se référer ou qu'ils vont faire de nombreuses emprunts au savant fou britannique. Pour moi, effectivement, c'est que ça reste une figure qui est assez fondamentalement britannique. Mais après, évidemment, ça se divise un peu partout. Mais ça a aussi à voir, en plus de tout ce que Hélène disait, avec lequel je suis complètement d'accord, il y a aussi l'idée qu'en Angleterre, la science est très institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a la Royal Society qui joue un rôle très important. Donc, les figures de scientifiques sont peut-être plus à l'avant que dans d'autres sociétés à cette époque-là. C'est-à-dire que les gens les connaissent. Et puis, en plus, ils font des découvertes qui les effraient. Donc, ils voient des gens comme Darwin, comme Lyell, tout ça, des gens qui font des découvertes fondamentales qui sont contrairement à l'opposé de la pensée victorienne, de leur conception de l'homme victorien en plus, qui est au sommet de la hiérarchie pour eux. Ils ont des scientifiques, puis en plus, qui s'opposent à la Bible. Donc, évidemment, la religion aussi a un grand impact en Angleterre, donc est très importante à cette époque-là. Donc les scientifiques s'opposent à toutes ces valeurs-là. Donc, évidemment, c'est très marquant pour eux. C'est ce qui effraie le plus.
Dehors, c'est pas la joie. Beaucoup trop de chaleur. Des hommes qui aboient le ciel annonce la couleur. Il y a des accidents, de la pluie mazoutée. Les enfants sont violents, finis les îles enchantées. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Il parle d'un cyclone. On compte les éclairs, le feu, les chauds, les pylônes. Il y a de la panique, des gourous qui cajolent, des sauts sans élastique et des cochons qui s'envolent. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, reste avec moi.
C'était Florent Marchais avec le titre « Reste avec moi ». Nous sommes de retour dans le Labomatique sur Radio Campus Rennes avec Hélène Machinal et Hélène Després, chercheuse et postdoctorante en littérature anglophone, pour parler des savants fous. Dans la première partie de l'émission, nous avons un peu caractérisé la figure du savant fou et de son évolution dans le temps. Alors Hélène Machinal et Hélène Després, que ce soit pour Frankenstein ou pour Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ils ont été écrits en réponse à des changements dans la société. Et est-ce que ces savants fous symbolisent un état d'esprit de la société à un moment donné, comme par exemple une peur du progrès ou une peur de la science?
En fait, c'est pas tant une réponse que représentent ces personnages de savants fous qu'une représentation d'un conflit, c'est-à-dire d'une tension. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs dans l'ouvrage de figure mythique. Une des définitions possibles de la figure mythique, c'est l'idée qu'elle représente un compromis. À un moment, si vous voulez, un personnage va cristalliser les tensions qui existent quand on est en train de changer d'ordre. On est en train de passer de l'ordre ancien à un ordre nouveau. Donc on a une ancienne façon d'envisager l'homme et le monde qui va disparaître et apparaît une nouvelle façon d'envisager l'homme et le monde et qui est directement liée au progrès scientifique de l'époque. Et tant que ces deux ordres demeurent, le personnage du savant fou, très souvent, cristallise ce moment de compromis où les deux ordres existent encore. Donc c'est pas tant une réponse qu'une mise en scène ou mise en symbole des tensions du moment par rapport à ce changement d'ordre qui généralement est lié à la science.
Par exemple, Jekyll annonce un peu la psychanalyse, donc on voit que c'est déjà des tensions qui sont dans la société, donc c'est pas en réaction après, donc on voit que c'est des idées qui circulent déjà dans la société, qui peuvent poser problème, puis qui se cristallisent dans les romans. Par exemple, Frankenstein même annonce déjà les théories d'évolution, parce qu'on imagine que Darwin a tout inventé, qu'en 1860, du jour au lendemain, avant, tout le monde était créationniste, et du jour au lendemain, tout le monde est devenu évolutionniste. C'est pas du tout le cas. En fait, le grand-père de Darwin avait déjà des idées, Erasmus Darwin, donc avait déjà des idées un peu évolutionnistes, un peu primitives, mais bon, l'idée était déjà là. Et puis, Mary Shelley connaissait bien Erasmus Darwin aussi, donc elle le lisait. Donc, on voit que déjà Frankenstein, on voit déjà l'idée de l'évolution, parce qu'on a déjà un rapport à l'animalité, un rapport à l'homme qui est très, très différent du divin, qui s'éloigne complètement du divin. Donc, on a déjà ça. Donc, on voit toujours que les tensions sont là avant même, des fois, que la population générale découvre ces découvertes-là. Et puis, au 20e siècle, c'est la même chose. C'est-à-dire que les savants fous d'après 45 s'inscrivent dans la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi beaucoup de la guerre froide, dans lesquelles ils sont plongés, quoi. La bombe atomique ne terrorise pas à cause d'Hiroshima, elle terrorise parce qu'ils sont en pleine guerre froide. Et puis, la menace est encore là. Donc, c'est souvent au cœur de tout. Hein. C'est généralement pas par après. Quoi.
Ce qui est intéressant, particulièrement de ce point de vue-là, dans le cas de Stevenson, Jekyll et Hyde, c'est que dans ce roman-là, on a à la fois une représentation dans les textes d'un certain nombre de hantises spécifiques à la période, qui sont toutes les hantises associées à une dégénérescence de l'espèce, de la race, etc. Toutes les hantises de fin du monde, qui sont propres aussi à la fin du 19e, pas uniquement en Angleterre, hein, bien sûr, mais particulièrement présentes en Angleterre, avec les théories de disparition du soleil et autres craintes également autour des découvertes qui sont faites en thermodynamique à l'époque. Donc ça, c'est vraiment présent dans le roman à travers le personnage de Hyde, qui est représenté comme un espèce de personnage animal primitif, archaïque, qui renvoie à cette image originelle de l'homme qui serait un singe, qui a été introduite par les théories de Darwin et qui fait tant peur. Et par ailleurs, comme le disait Hélène tout à l'heure, le roman annonce aussi les instances de la personnalité telles qu'elles vont être théorisées par Freud au tout début du XXe siècle, et cette idée que l'homme n'est pas une entité unie et unique, mais qu'il peut y avoir différentes instances dans sa personnalité qui peuvent entrer en conflit. Donc il y a à la fois une dimension prospective, si vous voulez, qui annonce un certain nombre d'aspects qui vont être théorisés ensuite par la science, à partir d'un certain nombre de questions spécifiques à l'époque, et aussi une dimension contextuelle où dans le texte sont représentés un certain nombre de hantises de l'époque.
Vous avez parlé de Darwin, et je voulais savoir si, à l'inverse du personnage de savant fou créé par la littérature, des savants réels pouvaient être mystifiés et devenir des savants fous dans l'art. J'avais comme exemple Nikola Tesla, qui a fait beaucoup de recherches en électricité et en électromagnétisme, et qui est utilisé un peu comme un savant fou dans le film Le Prestige de Christopher Nolan.
J'ai beaucoup travaillé en fait sur les représentations des savants réels en littérature, et puis dans certains cas, ils finissent par rattraper un peu le savant fou. Mais à la base, le savant fou, c'est une figure de fiction pure. On ne peut pas dire qu'un savant réel est un savant fou, même, parce que, pour plein de raisons, en fait, parce qu'il n'est pas fondé dans le mythe, parce que le savant fou n'est pas une créature psychologique non plus, en général. Donc, c'est vraiment un personnage de papier. Mais après, effectivement, la littérature a récupéré énormément de figures réelles. Tesla en est une, puis plusieurs, hein, Thomas Pynchon aussi l'a utilisé dans ses romans. Tesla apparaît quelquefois, Thomas Edison, entre autres, chez Villiers de l'Isle-Adam, où... oui, ils sont inspirés de savants réels, mais ils sont aussi complètement des savants fous. On sent qu'il y a vraiment les deux influences à la limite. Darwin, par contre, en général, est très positif dans la littérature. Il apparaît jamais en savant fou, en fait. Entre autres, à cause de la position, de la posture qu'il avait socialement. C'est-à-dire que Darwin a publié sa théorie de l'évolution et après, il s'est retiré. Il n'a pas défendu sa théorie lui-même. Il a envoyé Huxley, en fait, la défendre. Entre autres, parce qu'il était physiquement assez malade. Donc, il n'avait pas la force de défendre ses théories. Donc, il n'est pas devenu une figure très négative, contrairement à ses théories, quoi. Il n'a pas fini par cristalliser ça. Par contre, il y a plein d'autres savants, surtout au 20e siècle, honnêtement, qui sont devenus des véritables savants fous dans la littérature, entre autres Oppenheimer, qui a développé la bombe atomique, qui, lui, apparaît dans des dizaines de romans, de pièces de théâtre, et puis parfois rejoint des savants fous jusqu'à un certain point. J'ai beaucoup travaillé, en fait, sur les représentations fictionnelles de Mengele, le médecin nazi. Dans ce cas-là, pour moi, lui, c'est un vrai savant fou littéraire. C'est-à-dire que dans les romans où il est mis en scène, on voit des schémas qui sont communs à Frankenstein, à Moreau. Donc, on voit vraiment des références au savant fou littéraire pour le mettre en scène. Donc, il est vraiment perçu comme tellement exagéré dans le réel qu'on le perçoit presque comme un personnage de fiction. Ça le dédramatise jusqu'à un certain point aussi, c'est-à-dire que la façon-là de le mettre en scène. Donc, on voit vraiment des schémas qui sont communs. Donc, on le voit vraiment travailler à Auschwitz comme si Auschwitz était une île, l'île du Dr Moreau, quoi, comme si c'était un lieu isolé, ce qui est le cas aussi. Puis c'est un peu la même chose pour la bombe atomique parce qu'ils sont isolés complètement à Los Alamos, dans un lieu complètement au milieu du désert. Donc, il y a des schémas qui sont communs avec la littérature des savants fous du 19e. C'est assez surprenant. Donc, oui, il y en a beaucoup. Beaucoup comme ça. Alan Turing apparaît beaucoup en fiction aussi. Marie Curie, jusqu'à un certain point, mais toujours de manière plus positive, évidemment. Donc, il y a beaucoup de savants comme ça qui émanent dans la fiction et puis qui inspirent Einstein énormément aussi. Puis Einstein, en plus, il est intéressant parce qu'il est plus ambivalent, c'est-à-dire que dans certaines œuvres, il va être vraiment montré comme un peu plus positif, mais dans certaines œuvres, il va aussi être montré un peu comme un savant fou parce qu'il est à la limite, c'est-à-dire que jusqu'en 45, on considérait que la physique théorique et que les mathématiques avaient aucun impact sur le social, qu'il n'y avait aucun problème à pratiquer ces disciplines-là parce qu'il n'y avait aucune problématique éthique qui était liée à ça. Pour eux, c'était tellement abstrait qu'il n'y avait aucun risque qu'il y ait des conséquences concrètes. Ben, la bombe atomique a bien montré que c'était pas le cas. Et puis, Einstein s'est retrouvé au centre de tout ça, en fait, parce que ses théories ont été utilisées, entre autres, pour développer la bombe, mais lui-même, il n'a pas participé du tout, en fait. Il a dit beaucoup dans les médias, il a écrit beaucoup sur le fait qu'il se sentait très coupable, en fait, de cette utilisation qui a été faite de ses théories, mais en même temps, il n'en est pas directement responsable, même s'il a écrit une lettre pour recommander le développement de la bombe atomique en réaction à la bombe allemande, qui n'a jamais eu lieu finalement. Mais en fait, Einstein est beaucoup montré comme justement le personnage en fiction qui incarne le doute, en fait, qui incarne cette transition-là entre, comme Oppenheimer d'ailleurs, cette transition-là entre une prise de conscience des scientifiques qu'il n'y a aucune science qui est complètement neutre, il n'y a aucune science qui se pratique en dehors du social. Toutes les sciences peuvent avoir un impact sur le social, puis c'est le rôle des scientifiques d'au moins se poser ces questions-là.
Alors moi, j'ai l'impression que maintenant, la science est plus comprise, plus ancrée dans la société qu'au 19e siècle, par exemple. Du coup, peut-on voir arriver de nouveaux savants fous dans la littérature contemporaine ?
Oui, tout à fait. Vous avez alors parfaitement raison sur les deux points. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir, parce qu'on a tendance à l'oublier, qu'à la fin du 19e, le mot scientifique n'existe pas. C'est justement avec des découvertes comme celle de Darwin et les travaux de Huxley à partir de Darwin que le mot scientifique va être créé. Donc c'est vraiment effectivement un contexte où la science ne renvoie pas à grand-chose à l'époque, en particulier aussi parce que les grandes universités à l'époque sont peuplées d'universitaires qui sont des prêtres. Donc il y a aussi la question de la mainmise de la religion sur l'éducation et la connaissance qui est importante. Et donc effectivement, à la fin du 20e, enfin après 45 et à la fin du 20e en particulier, on voit ressurgir des figures de savants fous dans la littérature et aussi au cinéma bien sûr et dans les arts visuels en général. Hein, il n'y a pas que dans les textes, on voit aussi dans les mangas, dans les romans graphiques, enfin dans tout ce qui peut permettre une représentation de l'imaginaire. Et ça, c'est aussi lié au fait que après les années 70, on voit un nouveau changement de paradigme avec l'émergence de l'informatique, du numérique et des biotechnologies. Donc de nouveau, des progrès scientifiques qui peuvent avoir une incidence sur le corps humain, sur l'évolution de l'espèce et sur le devenir aussi bien organique que social des êtres humains.
Et puis aussi dans le contemporain, en fait, depuis 45, mais depuis les années 60 beaucoup, la société perçoit bien que les conséquences d'expériences scientifiques pourraient être globales, en fait. Alors qu'avant, les savants fous, par exemple chez Frankenstein, chez Jekyll, chez Moreau, les conséquences sont locales. Ils peuvent être symboliquement importantes, mais il y a jamais l'humanité n'est jamais en cause. Alors que maintenant, depuis justement les nanotechnologies, tout ça, c'est des imaginaires en fait qui s'ouvrent sur l'humanité au complet. Donc, on imagine que la science pourrait amener une modification de l'humain, mais d'une manière beaucoup plus fondamentale et non pas sur un plan individuel qui serait possible à restreindre, possible à limiter. Donc, c'est un autre niveau qui fait peur en fait, qui est la société. Oui, les scientifiques sont plus sont peut-être mieux intégrés dans la société, mais la société en général ne les comprend pas forcément aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Quoi. La société n'est pas aussi on n'est pas à une époque aussi rationnelle qu'on pourrait l'espérer non plus. C'est-à-dire que... Et puis, les scientifiques eux-mêmes, souvent, refusent en fait toute réflexion éthique. C'est-à-dire qu'ils vont s'opposer, par exemple, en biologie, entre autres, on entend souvent des discours, des livres qui sont écrits sur des scientifiques qui disent « c'est pas à nous à se poser ces questions-là, c'est au comité d'éthique ». Donc, on envoie la responsabilité morale à des comités éthiques, comme si chaque individu n'était pas moral, n'était pas responsable de ses propres actions. Et puis, en plus, les scientifiques, aujourd'hui, travaillent dans des groupes tellement grands, ces groupes-là sont déresponsabilisants, en fait. On voit pas l'ensemble, en fait. On voit pas ce qui est le résultat final. Donc, c'est ce qui peut faire peur, en fait. C'est que le scientifique a pas forcément des intentions malignes. Ce qui ne veut pas dire que les conséquences de ce qu'il développe ne sont pas fondamentales sur l'humain, sa façon de se représenter, son avenir.
C'est la fin du Labomatique, merci de nous avoir écoutés. Si le sujet des savants fous vous intéresse, sachez que le livre dirigé par Hélène Machinal, Le savant fou, est publié aux presses universitaires de Rennes. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez retrouver en podcast l'émission ainsi que les émissions précédentes sur radiocampusrennes.fr. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique. Salut à tous et soyez curieux.